prie, Seigneur, aussi qu'on soit capable, lorsque les gens nous disent « Ah, la Bible, c'est un livre comme tous les autres », qu'on ait quelque chose à dire dans notre génération. Je te prie pour les gens qui sont à Saint-Michel, Seigneur Dieu, qui nous écoutent. Je te prie, Seigneur, que tu bénisses aussi ceux qui ne sont pas là ce soir parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils ont eu un empêchement. Je te demande de les garder et de les bénir. Au nom de Jésus, amen. Fait que les jeunes peuvent aller à l'éducation chrétienne. J'aimerais saluer les gens de Saint-Michel, s'ils sont là avec nous. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à ceux que je n'ai pas eu la chance de saluer ce soir encore. Yes. OK, donc la série qu'on fait présentement, c'est « La Bible est unique ». Et on est dans un temps, une ère où c'est fini le christianisme comme étant quelque chose qui est populaire. Hein? On est dans le postmodernisme, cette idée que le christianisme a déjà existé, les valeurs absolues aussi. Mais maintenant, c'est mort, tout est relatif. Il n'y a plus de vérité qui se tient pour la vérité. Et nous autres, on est les croyants du livre. On est appelés les gens du livre. Et donc, quand on parle à quelqu'un, ben, avant même d'y parler de Dieu, il faut essayer d'y faire croire que Dieu existe. Dans l'une génération, tu disais « la Bible le dit », les gens t'écoutaient. T'sais. Alors, on a besoin d'être convaincus, nous autres aussi, parce que je vois des ados qui sont là, des jeunes adultes aussi, puis à un moment donné, il y a cette idée qui vient dans notre tête qui dit « ouais, mais la Bible, c'est pas différent du Coran ou d'autres écrits sacrés. » Ben, j'ai été élevé là-dedans, fait que vu qu'on a passé la majorité de notre vie à se faire dire que la Bible, c'était le livre de Dieu, comme les gens qui étudient le Coran se font dire que le Coran, c'est le livre de Dieu, ben, je vais prendre une chance que ce soit le bon livre. T'sais. Mais c'est trop. La Bible, elle a des exigences trop énormes sur notre vie pour qu'elle soit juste considérée comme peut-être une des vérités. Le Seigneur nous demande toute notre vie, pas une partie de notre vie. Il veut qu'on lui donne toute notre vie. Fait que s'il veut être digne de notre vie, ben, il faut que la Bible soit réellement la parole de Dieu. C'est important. C'est important. Et donc, ce qu'on veut faire aujourd'hui, puis dans les derniers enseignements, c'est pas nécessairement de dire que la Bible est inspirée par Dieu, mais elle est un livre qui se démarque de tous les autres et d'une très grande longueur. Okay? Juste de mettre dans notre idée que la Bible est vraiment extraordinairement différente des autres. Juste ça. Puis d'ailleurs, de toute façon, quand tu vas parler avec quelqu'un, tu n'auras pas besoin d'y prouver que la Bible est inspirée. Il faut que tu montres que la Bible elle a le droit d'avoir son attention. C'est là qu'il faut que tu rentres, c'est ta porte d'entrée. Alors, on a vu depuis le début de la série que la Bible était unique par sa continuité. Et c'est une histoire qui est impossible à écrire à moins qu'il y ait un auteur au-dessus de tous les auteurs. Et c'est ça qu'il faut que vous reteniez dans cet argument-là, c'est que 1500 ans d'histoire, 40 auteurs, 66 livres, 3 langues différentes, 3 continents, tout ça, c'est la recette pour avoir de la contradiction. Des gens qui se sont jamais vus, des gens qui sont des bergers, des rois, des gens de différentes strates de la société, écrits dans des attitudes, toutes des attitudes différentes, dans des moments différents, en temps de paix, en temps de guerre, etc. C'est la recette pour avoir un livre plein de contradictions. Et on a un livre qui est parfaitement uni. On a dit donc dans le premier cours ou dans le premier enseignement qu'on a vu, la Bible était unique par sa continuité. Il y a une histoire du début à la fin. L'origine du monde, l'origine du mal. Le sens de la vie, la solution pour le mal, puis la fin de toute chose. Il y a comme toute une histoire qui commence, qui nous dit comment ça commence, comment ça va finir, puis entre les deux, comment ça se passe. Et c'est continu. Donc, l'idée, c'est l'argument de la continuité, je vous le rappelle, c'est impossible qu'un livre tel que la Bible aurait été écrit, à moins que ce soit un seul auteur. Un auteur qui est au-dessus de tous les auteurs. C'est inspiré de la part de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Hein? 2 Timothée 3, 16, « Toute parole de Dieu est inspirée par Dieu. » Donc, on croit que Dieu a utilisé des hommes et qui a fait écrire ce livre-là qui est extraordinairement continu. Deuxièmement, on a vu que c'était un livre qui était unique par sa diffusion. Il est diffusé comme aucun autre livre. Et là, les gens vont dire, oui, mais il y a un livre chinois là, qui a 800 millions d'exemplaires. Tu sais. Ouais, il était obligatoire pendant 4 ans, de 66 à 71, puis tous les Chinois devaient l'avoir. Tu sais. Fait que c'est normal que dans quelques mois ou quelques années, il a peut-être été sur il a peut-être eu la palme d'or pendant un an ou deux. Mais la Bible, elle a la palme d'or de tous les temps. Comment on pense qu'il y a d'exemplaires qui ont été imprimés de la Bible? 5 milliards. Le Lord of the Ring, combien? Le Seigneur des Anneaux? 100 millions, 120 millions. Donc, on est très loin hein, dans le palmarès. Donc, c'est un livre qui est uniquement diffusé. Il est unique aussi par sa traduction. Quand un livre est vraiment extraordinairement bon, il est traduit en combien de langues? Ouais, 7 ou 12. Là, quand on dit qu'un livre est traduit à 12 langues, c'est un livre qui est superbe. Il est vraiment beaucoup populaire. La Bible est traduite dans combien de langues? Qui dit mieux? 2932 langues en 2015. 2932 langues. Pas 12 langues! 2932! Combien de pourcentage de la population mondiale peut l'avoir dans sa langue? En portion ou en totalité? Soit le Nouveau Testament, l'Évangile de Jean ou encore toute la Bible. 90 % à 95. Pourquoi on dit de 90 à 95? C'est qu'il y a présentement, sur la population mondiale de 7,2 milliards, il y a 700 millions de gens pour qui un projet est en train d'être fait, mais il y a un 500 millions, qui est le 10 % qui n'a rien du tout qui est fait dans leur langue. Ça représente 42 % des langues du monde entier qui n'ont pas la Bible dans leur langue. Mais c'est quand même 2932 langues. Quand tu dis qu'un livre est extraordinaire quand il est traduit en une douzaine de langues, puis que lui est traduit en 2932 langues, en portion ou en totalité, je pense que ça vaut la peine de s'arrêter, puis de voir, de dire, hey, c'est vraiment un livre qui est extraordinaire. La semaine passée, on a vu que c'était un livre qui se démarquait par sa survie. Des royaumes en entier ont mis des menaces sur le peuple de brûler le livre, d'enlever les promotions, les gens qui étaient en haut, en position d'autorité, de faire perdre leur job s'ils ne renonçaient pas à ce livre-là ou à la chrétienté. Et on enlevait même la liberté s'ils persistaient dans leur folie de croire au livre de la Bible. Hey, c'est quelque chose, là. Il y a des pasteurs qu'on leur a arraché les yeux s'ils ne donnaient pas leur Bible. T'sais. Fait que tu te dis, waouh, si ce n'était pas le livre de Dieu, ça ferait longtemps qu'il serait disparu, ce livre-là, avec toutes les attaques qu'il y a eues sur ce livre-là. Il a été banni. On a vu aussi que c'était dans sa survie, il y avait comme une tradition chez les Juifs de traduire lettre par lettre, de transcrire lettre par lettre et de compter à la fin du chapitre ou du livre combien d'expressions régulières, combien de lettres. Arriver à compter. On disait même qu'il y avait tant de lettres par ligne puis tant de lignes par page. Il fallait que ça arrive numériquement et il fallait que la lettre du milieu d'un mot d'un livre soit la lettre du milieu d'un tel mot. Hein? Sinon, c'était pas bon, on coupait la copie, c'était pas bon. Donc, les scribes avaient depuis Esdras, avaient cette idée-là de transmettre lettre par lettre et ne devaient pas écrire de mémoire. Ah, j'ai vu l'expression, je transfère l'expression. Et donc, ça fait que les écrits qu'on a aujourd'hui, puisqu'ils ont été mathématiquement vérifiés quand on faisait une copie à une autre, même si on avait... Ah oui, on a dit qu'une des choses qui menaçait la survie aussi, puis c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de livres de l'Antiquité, c'est que le papyrus durait au maximum 100 ans et donc devait être transcrit. Et donc, ça veut dire que c'est un livre qui était énormément chéri pour qu'on puisse en avoir... On a jusqu'à 25 000 manuscrits anciens de l'Ancien puis du Nouveau Testament. Quand on va faire comment la Bible nous est parvenue jusqu'à nous, plus, je vous parlerai un petit peu plus du papyrus, des pots d'animaux, etc. OK, aujourd'hui, on veut voir, je vais prendre ma manette, la Bible est unique par ses enseignements. Elle est unique par ses enseignements. Ah, tu vas avoir mon PowerPoint? OK. On peut-tu faire pause sur l'enregistrement? Oui, OK. Peux-tu l'essayer? On y va. Ça marche. Merci, Juliane. Merci à Stéphane, à l'audiovisuel. Fait qu'on y va. Donc, on veut voir aujourd'hui que la Bible est unique par son enseignement. Un, la prophétie. La prophétie rend la Bible unique de tous les autres livres qu'on dit être sacrés. Elle est unique aussi par son histoire. La manière qu'elle relate l'histoire est un livre historique qui n'a aucun comparatif avec. Et aussi son caractère. C'est impossible que la Bible ait été écrite pour qu'il y ait une gang de gars qui disent « Venez, je vous joindre à nous. » On va voir pourquoi. Que c'est vraiment, elle a un caractère très authentique, la Bible. Et si ça, c'est pas un livre qui a été écrit pour faire grossir une gang, admettons. Okay? On va expliquer ça tantôt. Donc, la prophétie. Premièrement, la prophétie. Je vous présente Wilbur Smith, qui est lui, c'est un auteur de best-seller, qui est cultivé dans l'histoire de l'Antiquité au Moyen-Orient et est très attiré par l'histoire en Égypte, tout ce qui est le Moyen-Orient. Il y a 25 000 livres dans sa bibliothèque et lui, il dit ceci à propos de la Bible. Il dit « C'est le seul livre d'un homme ou d'un groupe d'hommes dans lequel se retrouve un vaste corpus de prophéties relatives à des nations particulières, à Israël, à tous les peuples de la terre et à la venue de celui qui devait être le Messie. Pourtant, dans tout l'éventail de la littérature grecque et latine, nous ne pouvons découvrir une prophétie spécifique authentique d'un grand événement historique à venir, dans un avenir lointain, ni aucune prophétie concernant un sauveur devant venir dans la race humaine. » Donc, il dit, la Bible, elle a un corpus, un corps plein de prophéties qui annoncent toutes sortes de choses concernant les peuples de la terre, Israël, la venue de celui qui devait venir, mais dans toute la littérature ancienne, pas une. Donc, beaucoup de prophéties dans la Bible, de toutes sortes de choses à venir, pas une prophétie dans tous les écrits anciens qui sont les littératures grecques, la littérature latine. Il dit aussi, par rapport au Coran, il dit le mahométisme, qui se trouve à être, dans le fond, la religion musulmane, le mahométisme ne comporte aucune prophétie relative à la venue de Mahomet, qui aurait été prononcée des centaines d'années avant sa naissance. Aucun fondateur de culte de ce pays ne peut identifier de manière authentique un quelconque texte ancien prédisant son apparition. Donc, c'est un livre qui est unique. Et c'est important de le dire, il n'y a aucune religion qui de livre sacré qui annonce des événements à venir dans la littérature ancienne. C'est quand même bon à savoir. Nous, on n'a pas nécessairement fouillé tous ces livres-là, mais des gars qui sont cultivés, qui ont cherché, ils n'ont trouvé aucun égal avec la Bible concernant la prophétie. Norman Geisler, que j'aime beaucoup, qui est un apologète, un défenseur de la foi, dans son introduction à ce livre-ci, il dit, une introduction à la Bible, il dit ceci. Dans la Bible, concernant la prophétie, il y a des centaines de prédictions faites des centaines d'années d'avance qui ont trouvé leur accomplissement littéral. Donc déjà, beaucoup de choses qui ont été annoncées se sont accomplies. Des informations sur la naissance, le temps où Jésus-Christ naîtrait, la ville de sa naissance, la nature de sa naissance. Il y a une douzaine de faits relatifs à sa vie, à sa mort et à sa résurrection. On a juste besoin de lire Ésaïe 53, il y en a quasiment une dizaine juste dans ce chapitre-là, d'informations sur sa vie et sa mort. Plusieurs autres prophéties sur des pays, la destruction d'Édom, la malédiction de Babylone, la destruction de la ville de Tyr, destruction de la ville de Ninive, le retour d'Israël dans leur pays. Et il dit ceci, il dit, d'autres ouvrages prétendent être d'inspiration divine, tels que le Coran, le livre des Mormons, les parties des Védas, qui se trouvent être un livre pour les hindous, mais aucun d'eux ne contient des prophéties prédictives. Aucun d'eux ne contient des prophéties prédictives. Il en résulte qu'une prophétie accomplie constitue une forte indication de l'unicité de la Bible et de son autorité divine. Donc, il n'y a aucun... Là, c'est des gars qui... C'est des gens qui savent de quoi ils parlent. Ils ont fouillé le Coran. Ils ont fouillé les livres des Mormons. Ils disent aucune prophétie prédictive. Alors, s'il y en aurait juste une, ça vaudrait la peine de regarder qu'est-ce qu'elle dit, cette prophétie-là. Et la Bible en contient des centaines de prophéties. Je vais vous donner l'exemple de Tyr, là, hein, celle-là ici. Là. Ézéchiel, chapitre 26. Je l'ai déjà fait dans mon message sur les choses présentes et les choses qui sont à venir dans mon étude sur l'Apocalypse, juste pour donner un goût à la prophétie. Fait que je vais le rappeler. Et Tyr, c'est pas loin de où ce que Mirella s'en va la semaine prochaine. Hein? C'est au Liban, n'est-ce pas? Donc, c'est les ancêtres du Liban. Mirella, si j'ai oublié quelque chose, tu me le dis. Si tu peux enrichir ce que je dis, tu me le dis aussi, OK? J'ai pas de problème, là. J'ai dû ressortir un petit peu mes vieilles notes à ce sujet-là. Donc, dans Ézéchiel 26, il nous est parlé d'une prophétie contre Tyr. Que Nebuchadnezzar la détruirait, que plusieurs nations viendraient contre elle. Elle serait rendue chauve, plate comme le dessus d'un rocher ou d'un massif. Les pêcheurs étendraient leurs filets au-dessus d'elle. Les débris seraient jetés dans l'eau. Et elle ne serait jamais rebâtie et ne serait plus retrouvée. Donc, Nebuchadnezzar la détruirait au verset 8. La Tyr terrestre, parce qu'il y avait une Tyr, il y avait la Tyr sur la côte. Si on regarde ça ici, là. Il y avait une Tyr ici, OK? Ou il y avait une Tyr ici, puis il y avait une île pas loin, OK? Donc, je ne dis pas que ça, c'était la Tyr, ça, c'était l'île, là, c'est beaucoup trop gros. Donc, ça ici, c'était la Tyr terrestre, et il y avait à quelque part une Tyr qui était sur les mers. Et les habitants de Tyr, c'était des gens qui maîtrisaient les mers au temps de Babylone. Ils dominaient le marché. Hein? Ézéchiel 28, là, par leur commerce, ils dominaient le monde de leur temps par le commerce par les mers. Alors, Nebuchadnezzar est arrivé contre la partie terrestre et l'a assiégé pendant 13 années. Et au bout de 13 ans, l'Encyclopédie Britannica nous dit qu'en 573, la Tyr terrestre a été détruite. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont aménagé sur une île qui était à peu près à un demi-kilomètre de là, dans la mer. Et c'était une ville fortifiée sur l'eau. OK? Et ça, Nebuchadnezzar n'avait pas la force des mers, n'avait pas la capacité. Il est descendu, je crois qu'il est allé vers l'Égypte à ce moment-là. Et la ville a comme abdiqué, mais quand ils ont rentré, il y avait déjà, la majorité des gens avaient déjà fui par la côte. Puis ils s'étaient allés à un demi-kilomètre sur cette île-là. Alors, Nebuchadnezzar la détruirait. Il l'a détruit. Il a détruit la partie terrestre, okay, mais pas, il ne s'est pas rendu jusqu'à l'île. Et donc, plusieurs nations viendraient contre elle, qu'on a vu au verset 3. Eh bien, il y a une autre nation qui, en plus dans le 4e siècle, c'est les Grecs, sous Alexandre le Grand. Alexandre le Grand n'avait pas non plus de force navale. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à mettre de la pression sur des pays avoisinants et a commencé à mettre une pression sur le pays de Sidon. Byblus a fourni 80 navires. Rhodes en a fourni 10, Soli en a fourni 3, Malos, Lucia en a fourni 10. Un gros navire est venu de Macédoine et 120 navires de Chypre. Et là, ils sont venus faire le tour de la Tyr sur les mers. Ils ont commencé à avoir une force navale et Alexandre le Grand, en même temps, faisait un ponceau pour se rendre jusqu'à l'île. Et donc, ils ont balayé tout ce qui avait été détruit avant, là. Mais lui aussi a dû redétruire parce que Tyr s'était refait. Et donc, ils ont gagné la bataille terrestre, mais en plus de ça, et là, on voit, elle serait rendue chauve, plate, comme le dessus des massifs. Les pêcheurs étendraient leurs filets au-dessus d'elle, et puis les débris seraient jetés dans l'eau. Bien, c'est Alexandre le Grand, en 332, qui, après avoir raclé tous les débris de la destruction de la ville terrestre de Tyr, qui a fait un ponceau qui mesurait 200 pieds de large, 60 mètres, jusqu'à l'île. Hein? Et Il a fait donc un pont et c'est en 332 qu'ils l'ont battu. Ah oui, en passant, les îles, toutes les autres nations qui viendraient là ici, c'est tous les navires qui ont été allés chercher de toutes les autres nations. C'est quand même capotant de voir ça. Et elle ne serait jamais rebâtie, elle ne serait plus retrouvée. Ben c'est plus, on connaît plus une Tyr qui domine les mers depuis ce temps-là. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça veut dire exactement. Si j'ai pas eu le temps d'étudier, à savoir si ça, qu'est-ce que ça voulait dire par ne plus être rebâti ou ne plus être retrouvé. Certains auteurs disent qu'il y a des filets de pêche qui sont étendus parce que c'est l'industrie qui domine beaucoup la région. C'est là qu'on va étendre nos filets pour faire sécher nos filets au-dessus d'elle. Il y a une partie aussi, j'avais étudié, qui semble être sous l'eau. Parce qu'en ayant fait ce bras-là, ça l'a accumulé, ça accumule du sable. Puis en tout cas, j'avais lu des rapports d'archéologie qui montraient qu'il y avait une partie de cette ville-là qui était sous l'eau. Fait que ça peut être littéralement qu'ils étendent des filets au-dessus de cette ville-là. Intéressant, hein? La Bible est unique par ça. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Mirella? T'aimerais-tu ça nous bénir? Je vais te laisser le micro. Puis même si j'ai dit quelque chose là, qui n'est pas tout à fait juste, n'hésite pas, OK?
Je trouve très intéressant que tu racontes des choses sans les avoir vues, jusqu'à avec tous ces détails, parce que ce que tu dis, c'est vraiment vrai. On peut aller à Tyr et puis voir on appelle la Tyr de l'eau la Tyr maritime. Jusqu'à aujourd'hui, on dit la Tyr terrestre et Tyr maritime. Et puis, la maritime, elle est vraiment au-dessous de l'eau. On ne voit pas, là, mais on sait bien qu'il y a des temples et des colonnes et des
tours en dessous de l'eau.
Oui,
c'est ça.
Et puis, jusqu'à aujourd'hui aussi, il y a des pêcheurs qui pêchent. On peut aller voir puis ils jettent leur filet là-bas.
Ça peut étendre ses filets au-dessus d'une Tyr sous l'eau.
Oui.
Autant que ça peut être de faire sécher nos filets sur cette.
Il y a des gens qui vont faire des plongeons et puis ils trouvent jusqu'à aujourd'hui des monnaies de temples.
Wow.
De Tyr.
Est-ce que qu'est-ce que je voulais dire donc? Est-ce qu'on voit ce bras-là, le bras encore d'Alexandre le Grand? Est-ce qu'on sait exactement
c'est? Je sais pas, mais il y a un arc de triomphe qui marque la victoire d'Alexandre le Grand sur Tyr. Il existe jusqu'à aujourd'hui.
Est-ce que c'est sous l'eau ou au-dessus?
Non, au-dessus.
Est-ce que c'est rebâti à cet endroit-là?
Il y a encore des vestiges. Non, il y a juste les vestiges qu'on peut aller visiter. Donc, on peut voir des colonnes, des tombes, des.
Puis, c'est pas rebâti à cet endroit-là.
Non, c'est pas rebâti.
C'est spécial.
Il y a la ville de Tyr, mais c'est loin d'être ce que Tyr était dans les temps anciens.
Intéressant, merci. Tu as juste appuyé sur le bouton. Donc, peut-être que c'est ce que ça veut dire par ce n'est pas rebâti et ce n'est plus retrouvé dans ce sens-là. OK. Donc, on a vu la prophétie. On va regarder maintenant le fait qu'elle est unique par son enseignement en termes d'histoire. La manière que la Bible rapporte les généalogies, tu ne sais pas juste qui était le roi. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit à sa femme. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé. Si le roi était un berger avant, tu le sais. Tu sais combien de frères qu'il avait, tu le sais. C'est pas comparable. Dans toute l'histoire, dans tous les livres d'histoire, on ne retrouve aucune information sur les grands empereurs et tout ça, à part le fait qu'ils ont été là. Mais de dire qu'une nation vivait sous les tentes, puis ils ont déménagé d'une telle place à une telle place. Oui? Ça, c'est le caractère. Tu me devances. C'est le caractère de la Bible. C'est exactement vers là que je m'en vais. L'encyclopédie de l'histoire ancienne de Cambridge dit « Assurément, les Israélites firent preuve de génie dans la construction historique et l'Ancien Testament représente le plus ancien écrit historique existant. » Ok, donc, c'est le livre le meilleur livre historique qui existe sur la planète de l'histoire des peuples. Le professeur d'archéologie distingué, M. Albright, dit la tradition nationale hébraïque surpasse toutes les autres par sa claire exposition des origines tribales et familiales. Déjà en Genèse chapitre 10, il y a l'histoire du commencement des nations. Il y a des généalogies qui sont là. Hein? Et M. Albright dit qu'elle est, précise, étonnamment précise. Rien de comparable dans les peuples germaniques, en Égypte, à Babylone, en Assyrie, en Phénicie, en Grèce, à Rome, en Chine ou en Inde. Toutes les origines, un tel, enfantin, tu sais, toi, tu arrives ça dans ta vie, tu lis ça, tu dis, il faut que je lise 4 chapitres par jour, mais là, ces chapitres-là, c'est comme, c'est long. C'est un tel enfantin, il a vécu tant d'années, et puis l'enfantin. Mais c'est crucial. Réalisez-vous avec moi que ces choses-là, ce sont les informations qui nous montrent que ce n'est pas une gang d'illuminés qui ont écrit ça, à un moment donné, qui ont inventé une histoire, là. Et puis on continue. Donc, il n'y a rien de comparable dans les peuples, dans tous les peuples qu'on connaît, les peuples anciens, de démontrer leur origine tribale et familiale. Jusqu'en 1993, imaginez que David était encore qu'un mythe. Ben, il disait que c'était un mythe parce qu'on le retrouvait juste dans la Bible. Fait que les gens, les accusateurs de la Bible disaient David, c'est un personnage de mythique de la Bible. Mais en 1993, on a trouvé une inscription, Tel Dan, que ça s'appelle. Et c'est une tablette qui décrit la victoire d'un roi non-juif sur le roi d'Israël et la maison de David. Donc ça, c'était à peu près dans les années 800 que cette tablette-là a été écrite. Donc, c'est écrit la maison de David. Donc, David était reconnu comme ayant une dynastie. Et le roi d'Israël avait été vaincu, en tout cas. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Fait que c'est sûr que le gars, lui, qui a écrit cette tablette-là, il avait vaincu le roi d'Israël. Il reconnaissait donc qu'il y avait une dynastie, la maison de David. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, il y a maintenant... OK, donc plusieurs découvertes archéologiques avancent et plus la Bible est confirmée comme un récit historique fiable par les noms qu'elle mentionne. OK? Et jusqu'à présent, le BAS, qui se trouve être la Biblical Archaeology Society, confirme qu'il y a 50 noms qui ont été cités dans les Écritures, qui ont été trouvés. Et lorsque je regarde la liste de ces noms-là, et si vous avez, mettons, vous voulez regarder, là, mettons, vous reprenez la vidéo sur Internet, là, vous pouvez aller sur cette adresse-là ici. Et tous les noms avec les références bibliques sont tous écrits, là, c'est vraiment intéressant. Si quelqu'un aurait quelques heures là, à donner, ou une heure, là, puis juste aller voir ça, il trouverait ça bien intéressant. J'ai répertorié des gens de diverses fonctions. C'est des rois, des pharaons, des gouverneurs, des grands prêtres officiels durant le règne d'un roi, le père d'un officiel du roi, un assassin d'un roi, un co-régent d'un roi. Ah, on pourrait dire, wow, c'est juste des gens qui ont vécu en Israël, tu sais, qui ont régné en Israël, tout ça. Non, ils ont vécu en Égypte, à Moab, à Damas, en Israël, en Juda, en Assyrie, en Babylone et en Perse. C'est intéressant quand même. La liste répertorie des gens qui ont vécu entre 1010 et 404 avant Jésus-Christ. Donc, à partir du roi David jusqu'à à peu près la fin d'Esdras, Néhémie, tout ça. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Et donc, on commence de plus en plus à trouver que les noms que la Bible dit, bien, on les trouve. Ça dit quoi? Ça dit qu'on a un livre historique qui est très fiable. OK, et je termine avec ça. Elle est unique par son caractère. Elle est unique par son caractère. La Bible, elle ne peut pas avoir été inventée par des hommes pour faire de la propagande. Pourquoi? Pourquoi vous pensez? Hein? Ben oui, elle discrédite ses propres héros. C'est un livre qui discrédite ses propres héros. Je veux dire, le principe est suivant. Une fabrication humaine dans le but de convaincre n'aurait pas inclus des informations controversées qui auraient pu empêcher la propagande. Donc, pense à ça. Le fondateur du christianisme y est né en dehors du mariage. Ça part mal en tabarouette, là. Je veux dire, tu sais, ben oui, le Saint-Esprit, ben oui. On va compter ça un autre, là. Même s'il y avait Ésaïe 7,14, il était très incrédule, le peuple juif, mais le Messie naît dans une relation hors mariage. Pour les Hébreux, c'est la lapidation, ça. Pas pour Jésus, mais pour ses parents, certainement. Et donc, un enfant né hors mariage, un publicain fait partie du groupe fondateur de cette religion-là. Okay? Mais le publicain, C'est un chargeur de taxes. On empêchait les publicains de rentrer dans le temple. On n'adressait pas la parole à ces gens-là. C'était des gens qui étaient comme considérés comme des traîtres. Fait que si tu aurais voulu, c'était une gang de juifs, s'ils auraient voulu gagner d'autres juifs à leur cause, tu ne choisis pas un publicain. Un autre dans les 12 apôtres, c'est un zélote habitué à tuer ceux qui représentent l'autorité de Rome. Ça aurait fait fuir les non-juifs, les Romains. Ça n'a pas de sens. Il est fait mention dans la Bible des péchés des patriarches. Un homme qui fait passer sa femme pour sa sœur, la donne à coucher avec le pharaon pour pas risquer sa vie. Il ne va pas le faire une fois, il va le faire deux fois. Les péchés du peuple sont mentionnés dans Deutéronome 9, verset 24. L'adultère de David et comment il s'y est pris pour camoufler son adultère en faisant tuer son meilleur homme, un de ses meilleurs hommes à la guerre. C'est tout écrit. 2 Samuel chapitre 11, 2 Samuel chapitre 12. Les évangélistes exposent leurs propres fautes et celles des apôtres. Donc, c'est un livre qui semble, qui est d'une authenticité qui fait peur, hein? Puis le désordre qui règne dans l'Église, Paul va dire, examinez-vous vous-même parce que il y en a beaucoup qui sont malades parmi vous, puis il y en a d'autres qui sont morts parce que vous ne jugez pas le péché dans votre vie. Le Seigneur vous juge. Et tu dis, boy, c'est pas un livre qui est écrit pour faire de la propagande ni écrit par un groupe d'hommes pour avoir plus de monde avec eux. La seule raison pourquoi c'est écrit comme c'est écrit, c'est parce que c'est arrivé comme c'est arrivé. Il n'y a pas d'autre raison que ça. C'est parce que c'est arrivé comme c'est arrivé. Puis la Bible est écrite de cette manière-là parce que Dieu est l'auteur qui inspire les 40 auteurs de la Bible et que nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Des fois, je lisais des arguments contre le christianisme, puis les gens, j'étais sur un site en fin de semaine, puis il y avait. Moi, j'étais sûr que c'était un chrétien, tu sais, parce qu'il sortait tous les péchés de tous les gens dans la Bible, tu sais. Puis à la fin, il dit, garde, c'est pour ça que la Bible n'est pas vraie. Moi, j'étais là, il est en train de me donner des évidences pour me montrer que c'est le livre de Dieu, justement, parce que c'est un livre qui est authentique. Il révèle les faits tels qu'ils sont. Et parce que ceux qui vont être jugés, c'est les gens de sa propre famille d'abord, puis le reste du monde aussi, parce que Dieu a dit la vérité. Fait que sur ce, je vais faire une conclusion simplement. Donc aujourd'hui, on a vu que la Bible était unique par son enseignement, par la prophétie. On a vu qu'il n'y a aucun autre livre qui prétend être sacré qui peut s'appuyer par au moins une prophétie sur son fondateur, ou sur des événements à venir qui ont été arrivés, qui sont déjà arrivés. Okay? Il n'y a aucun livre qui peut faire ça. Le nombre important de prophéties accomplies dans la Bible nous montre que c'est un livre unique, et à cause d'un livre unique, il devrait avoir notre attention unique. Deuxièmement, on a vu que la Bible est unique par son enseignement de l'histoire. Il n'y a aucun autre livre qui nous donne avec détail le commencement d'une nation, la vie d'un roi, ses actions durant sa vie, les liens familiaux, les actions bonnes ou mauvaises de ce roi ou de cette personne-là. Donc, c'est un livre qui est unique dans tous les livres d'histoire au monde. C'est un livre qui est unique. Puis, on a vu aussi qu'il était unique par son caractère, parce qu'il dénonce même les péchés de ses héros et ne cache pas les informations qu'on aurait voulu cacher si on aurait voulu juste paraître un petit peu mieux pour grossir notre religion. Alors, pour ces trois raisons-là, ce soir, je pense que la Bible, elle est unique, puis elle demande à ce qu'on la considère comme un livre unique. On va arrêter l'enregistrement. On va continuer avec les questions ou les commentaires. Questions?